Je voudrais maintenant vous parler de la troisième partie de mon témoignage. Mais avant de parler d'une révélation que le Seigneur m'a montrée dans le ciel de gloire, tout d'abord vous donner quelques versets bibliques afin d'illustrer et de vous faire comprendre la responsabilité qui vous incombe à chacun. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Je pourrais simplement ajouter ces quelques mots. Celui qui croit en Dieu, celui qui a accepté Christ comme son sauveur personnel, celui-là verra la gloire de Dieu. Mais celui qui ne croit pas, il ne sera point jugé parce qu'il a péché, mais sera jugé parce qu'il aura refusé de connaître le Seigneur Jésus comme le Seigneur des Seigneurs et le don de Dieu, celui qui mourait sur la croix du calvaire pour le salut des hommes. Aujourd'hui, je sais que les hommes ne veulent pas croire en Dieu. On essaye d'implanter, d'inculquer dans l'esprit des enfants que Dieu n'existe pas et que la science de l'homme sauvera l'humanité. Il y a des années que j'entends les mêmes paroles, mais l'humanité n'est pas encore sauvée. Elle va de mal en pis, et nous savons que bientôt, l'humanité va payer les conséquences de son rejet de Dieu, mais que ceux qui auront cru, eux seront dans la gloire avec lui. Je sais que l'on se moque de Dieu, de nous, quand on dit que Dieu a préparé une place. Jésus nous a fait cette promesse. « À vous qui croyez, dit-il, je m'en vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous serez aussi. » Donc, si Jésus maintenant est parti dans le ciel de gloire, ce n'est point pour se retirer du monde, mais c'est pour nous préparer une place à chacun dans le ciel, afin que nous qui avons cru, nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est ce que j'ai cru. J'ai l'assurance pour moi qu'il y a une place, et je vous le démontrerai dans mon témoignage. Et tous ceux qui ont cru, qui croiront encore en lui, qui abandonneront leur vie de péché, qui abandonneront toute forme de religion, mais qui accepteront simplement l'Évangile comme la puissance de Dieu, cela, leur place est réservée auprès du Seigneur. Vous vous rappelez que j'ai dit dans la deuxième partie de mon témoignage que j'avais été guéri d'une façon miraculeuse, et j'exhorte chaque homme, chaque femme qui entendront ce témoignage, qui, ceux qui ne croient pas comme ceux qui croient, je voudrais que vous compreniez que le temps vient où Dieu va juger le monde et où les chrétiens entreront dans la gloire. Ne vous moquez pas de ce témoignage. Je ne suis pas le seul à avoir vu ce que j'ai vu. Je ne suis pas le seul à connaître ce que je connais, car je connais bon nombre de chrétiens qui sont maintenant dans la gloire et d'autres qui vivent encore, qui ont passé par les mêmes choses, qui ont vu les mêmes choses et qui ont entendu les mêmes choses que moi. Mon témoignage est vrai. S'il n'était pas vrai, je me tairais. Mais parmi le monde entier maintenant, mon témoignage est répandu et il se répand avec joie pour moi-même parce que je sais que des âmes sont sauvées. J'ai reçu encore des lettres ici dernièrement que des drogués se donnent à Christ, des âmes sont sauvées et d'autres ont leur foyer qui est véritablement rétabli. Pourquoi? Parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voici donc la troisième partie de mon témoignage. Lorsque j'étais guéri de mon cancer, de ma paralysie, je ne suis pas resté un infirme, au contraire. Les hommes ne voulaient plus que je travaille pour eux. Ils m'avaient même dit que je devais faire attention à ne point faire de chute ou l'autre, et ils m'avaient même placé autour de moi une ceinture en duralumin, afin que de soutenir ma colonne vertébrale, puisque celle-ci, n'est-ce pas, a été beaucoup vidée. J'ai des os de la colonne vertébrale qui ont été rognés, et en certains endroits même, il n'y a plus que le tronc. Et aussi, on m'a enlevé 4 lamelles de la colonne vertébrale, et ainsi donc, il y a un handicap, une faiblesse dans la colonne. Mais, puisque je ne pouvais plus travailler pour les hommes, je vous l'ai déjà dit, Dieu m'a appelé à travailler pour lui. Et je suis entré dans le ministère en 1948, et là, par la grâce de Dieu, moi qui ne savais point parler, qui bégayais, j'ai été envoyé un peu partout, même dans tous les pays qui nous entourent, pour annoncer l'Évangile. Et selon la promesse que Dieu avait faite, chaque fois que tu ouvriras ta bouche, m'avait-il dit, je te donnerai des âmes. C'est moi qui parlera au travers de ta bouche. Et croyez bien qu'en ce moment même, en vous donnant mon témoignage, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la grâce de Dieu qui parlera au travers de moi. Je veux comme vous communiquer la puissance de Dieu. Je veux vous communiquer la gloire de Dieu et que chacun d'entre vous puissiez comprendre que Dieu vous aime d'un amour éternel, d'un amour merveilleux qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre vous. J'ai donc prêché cet évangile dans plusieurs pays d'Europe et j'ai la joie de pouvoir entendre maintenant que même mon témoignage s'en va jusqu'en Amérique, au Mexique, en Espagne, un peu partout, et il parcourra le monde. Mon témoignage écrit a déjà été envoyé dans le monde entier, mais Dieu soit béni que des âmes soient sauvées pour cela. Et je m'attends à ce que chacun d'entre vous, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, que vous soyez fortifié par mon témoignage, et que si vous ne croyez pas, qu'aujourd'hui, vous puissiez réfléchir et donner votre cœur à Jésus. J'ai donc été envoyé, pendant 27 ans, j'ai voyagé dans plusieurs pays d'Europe annonçant l'Évangile. Dans mon propre pays, en Belgique, j'ai parlé d'un peu dans toutes les villes, parlé de l'amour profond de Dieu. Et par la grâce du Tout-Seigneur, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester. J'ai vu des guérisons merveilleuses. J'ai vu des miracles. J'ai vu des choses extraordinaires se passer autour de moi, non point que j'ai reçu des dons, mais parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut et la guérison des corps. J'ai travaillé un peu trop peut-être, et je me suis beaucoup fatigué. M'est arrivé même qu'un dimanche, j'avais jusque 4 et 5 réunions à donner, allant d'un côté à l'autre porter le témoignage de l'Évangile et remplacer les frères. J'ai été aussi beaucoup dans plusieurs assemblées avec les frères pour ouvrir des assemblées avec lui et faire connaître l'Évangile. Et partout, Dieu m'a accompagné, et il est encore avec moi en ce moment même où je témoigne pour lui. J'ai travaillé même à l'école biblique, j'ai travaillé dans plusieurs salles, plusieurs églises évangéliques, et à la fin, j'étais très très fatigué. Et un hiver de 1959, mois de novembre, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais plus absolument assurer un travail convenable. Et je suis revenu un soir de la ville de Verviers, en Belgique, jusqu'à chez moi. J'avais à peu près 45 kilomètres à faire pour rentrer chez moi, en pleine tempête de neige, en Vespa. Quand je suis rentré à la maison, J'étais couvert de neige, j'étais complètement glacé. Et voici que je me suis mis au lit, je n'ai même pas vu que je ne m'étais pas déshabillé, j'avais simplement laissé tomber ma pelisse qui était couverte de neige par terre, et j'étais monté en haut dans ma chambre et j'étais tombé sous le lit. Le lendemain, ma mère, ne me voyant point arriver, levé, elle vint voir dans ma chambre et elle me vit dans un état lamentable. Elle a fait venir le médecin, ce qui était normal, car nous ne sommes pas contre la médecine, et le médecin a constaté que je faisais une forte fièvre, en plus une angine infectieuse. Et cette angine, pour pouvoir calmer cette angine, le docteur me fit des piqûres de pénicilline. Il avait oublié qu'il ne pouvait plus m'en faire. Or, vous savez bien vous-même que dans notre corps, nous avons des anticorps pour lutter contre la maladie. Et le médicament, la pénicilline, est aussi un anticorps. Et ces deux anticorps luttent ensemble contre la maladie. Mais j'étais tellement affaibli que je ne faisais plus absolument d'anticorps, j'étais sans force contre la maladie. Et la pénicilline, au lieu de me guérir, a pourchassé le microbe qui, celui-ci, s'est encore engagé dans mes jambes. Et quelques jours après, le médecin devait constater que je faisais de l'érysipèle. Si vous ne savez pas ce que c'est, l'érysipèle, ce sont des boursouflures, une inflammation dans les jambes, boursouflures, et puis qui suinte comme une odeur, une sueur, vraiment une odeur de mort qui sort de vos jambes. Si bien que le médecin interdit tout contact avec moi, j'étais dans la pièce seule avec ma mère, et mes enfants étaient à nouveau partis, ne pouvant pas rester dans la maison. Or, ce fut le 16 novembre que le médecin étant venu me voir, je lui dis, écoutez un petit peu, regardez mes pieds. Et regardant mes pieds, il vit que les doigts de pied, les ongles de doigts de pied, étaient devenus déjà noirs. Alors il dut constater que j'avais ce qu'on appelle vulgairement la gangrène des vieillards, ce qui veut dire l'artérite. Or, cette maladie est terrible et souvent il n'y a pas de remède. Il voulait me transporter à l'hôpital quelques jours après, mais j'ai refusé d'aller à l'hôpital. Et j'avais entendu qu'il disait à ma cousine, il y a peut-être un moyen de le sauver, c'est de lui couper les jambes. Or, j'avais entendu que le médecin disait cela. Et je l'appelais, je lui dis, je ne veux pas aller à l'hôpital, je ne veux point qu'on me coupe les jambes. Si je dois mourir, je mourrai très bien ici. D'ailleurs, il est trop tard. Vous ne pouvez plus sauver mes jambes, car j'ai montré que l'inflammation était déjà montée dans les hanches. Or, on ne peut pas couper un homme en deux pour qu'il vive. C'était donc trop tard. Comme je refusais d'aller à l'hôpital, le médecin dit, ben, écoute, puisque tu veux, reste, je ferai mon possible. Et la maladie s'est amplifiée, les pieds sont devenus tout noirs, et c'est le 24 décembre que je réalisais que pour moi, c'était la fin. Or, je sentais mon corps qui faiblissait. Je sentais en moi comme si vraiment il y avait quelque chose de merveilleux qui se passait. Je sais que j'ai vu mourir beaucoup de gens, et je sais combien ceux qui ne croient pas en Dieu sont toujours en train d'essayer de s'agripper, ne veulent pas mourir. Combien j'en ai entendu qui disaient « je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Et on s'attrape à n'importe quoi, on supplie n'importe qui afin d'être sauvé, de ne pas mourir. Car la mort est le roi des épouvantements. Ce n'est pas que on a peur, on ait peur que son corps s'en va dans la poussière, mais c'est parce que au-dedans de lui, l'homme, la femme, qui sent la mort venir, a peur de l'au-delà. Tandis qu'un chrétien, et moi-même je l'ai réalisé, si je sentais même que mon corps allait disparaître, j'étais en paix, mais une paix merveilleuse. J'étais dans la joie, dans la tranquillité, et même si je voyais ma mère qui se levait, ou même ma cousine qui venait me voir, et vous savez l'habitude, elle sentait mes pieds étaient déjà froids, sentait mes jambes qui refroidissaient, tous mes membres se refroidissaient. Et vers midi, comme cela, j'ai dit, je sentais réellement que j'allais passer de l'autre côté, dans la paix la plus merveilleuse, car la parole de Dieu dit, celui qui croit en Dieu, celui qui a Jésus comme son sauveur, ne meurt point, mais il s'endort. Et c'était cela qui se passait en moi. Je sentais mon corps qui s'endormait. Alors, j'ai regardé ma mère qui pleurait, et j'ai dit, maman, ne pleure point. Le Seigneur ne t'abandonnera point, il sera avec toi. C'était déjà le deux. Elle avait eu deux fils, et c'était le deuxième qui s'en allait. Et elle restait avec ce que j'avais encore d'enfant dans la maison. Et tout à coup, à peu près vers midi, je sentais vraiment que c'était la fin. Mon cœur ralentissait de plus en plus, et tranquillement, j'attendais. Puis le moment est venu où vraiment je reçus cet appel, et mon âme est sortie de moi. Je fis le dernier souffle comme un petit hoquet. C'était fini. Et à l'instant même, oh, ne riez pas, ceux qui peut-être ne croient pas. Ne riez pas, mais ce que je vous dis, c'est ce que Dieu m'a montré afin d'attester réellement que c'était dans mon corps que j'allais paraître devant lui. Et que mon corps était resté là-bas dans le lit et que c'était vraiment mon âme qui allait paraître devant lui. Je me suis vu à côté de mon corps. Mon corps était resté sur le lit, lequel était là dans la maison. Je n'ai vu personne. Je n'ai point vu ma mère. Je n'ai plus vu personne, rien que mon corps couché sur le lit. Et puis tout à coup, je suis parti. À une allure, mais formidable. En quelques instants, j'étais transporté dans le ciel de gloire. Et en approchant, en montant toujours plus haut, j'entendais une musique merveilleuse. Plus j'approchais, plus j'entendais des chants de joie. Et puis tout à coup, j'ai vu devant moi des portes d'or étincelantes, comme des pierres, des diamants qui étaient plantés sous les portes. Les portes s'ouvrirent devant moi et j'entendais les voix, les chants qui sortaient de cet endroit derrière ces portes. Un chant merveilleux. Et bien souvent, il m'arrive, lorsque je suis en prière, en communion avec Dieu, réellement dans la communion avec lui, où il me semble que je ne suis plus ici, que j'entends à nouveau ces chants. Même la nuit, il m'arrive, lorsque je suis en prière pendant que je dors, que j'entends encore les chants. Je voudrais pouvoir les transcrire, mais malgré cela, je n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un chant d'ici-bas, c'est un chant pour là-haut. Et puis j'entendis une voix qui me dit, « Viens, bien-aimé, entre dans la maison de ton père. » Et j'entrais. Et c'était merveilleux. Je ne peux pas décrire. Et il est impossible à un homme d'écrire ce qu'il a vu dans le ciel de gloire. Si vous voulez connaître un peu ce que c'est qu'il y a là-haut, comment on peut voir la gloire de Dieu, lisez donc le chapitre d'Ézéchiel dans sa vision des chérubins, lorsqu'il est transporté dans la gloire. Lisez cela, vous comprendrez ce que j'ai vu moi-même. Alors, tout à coup, j'ai entendu cette voix, « Entre, bien-aimé, entre dans la maison de ton Père. » Et j'entrai, et je vis la gloire de Dieu. Il y avait là-bas, dans le ciel de gloire, un trône blanc. Je dis bien un trône sur lequel il y avait une lumière merveilleuse. Il y avait des choses étincelantes qui sortaient du derrière le trône. Des choses merveilleuses se passaient devant mes yeux. J'étais ébloui devant cette splendeur dans le ciel de gloire. Ne dites pas que j'ai vu Dieu. Je n'ai jamais dit nulle part que j'avais vu Dieu, mais la gloire de Dieu, la lumière de Dieu sur son trône. Et puis, de la droite du trône, se détacha une lumière. Et cette lumière, elle avait une forme d'homme. Elle vint vers moi, et je reconnus celui que j'avais déjà suivi pendant tant d'années. Pendant des années, 27 ans déjà, je l'avais suivi. Oh, que Dieu soit béni pour cette merveilleuse vision dans le ciel de gloire. Le contempler, je n'ai point vu sa face. On m'a demandé déjà s'il avait des cheveux noirs ou l'autre. La lumière, on ne voit rien d'autre que la lumière, car Christ aussi est la lumière. Et il me dit, viens bien-aimé, viens avec moi. Il me prit par la main et je partis avec lui dans un sentier. Et plus j'avançais avec lui, plus les chants devenaient intenses. Plus j'entendais les voix d'hommes, de femmes qui chantaient la gloire de Dieu. Et puis tout à coup, je vis un champ immense. Un champ qui était planté de lys. Des lys blancs qui resplendissaient de la même lumière qui était sur le Seigneur et qui était sur moi-même. Car la parole de Dieu est vraie, elle dit que nous resplendirons de la même gloire que lui dans le ciel. Et c'était ce que je voyais. La lumière, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus était sur moi et elle était aussi sur tous les lys qui étaient là. Et ces lys, blancs extérieurement, étaient rouges à l'intérieur. Et puis tout à coup, le Seigneur me dit, « Regarde. » Et j'ai regardé, et là-bas, au bout, je ne dis pas au premier banc, mais là-bas, j'ai vu qu'il manquait un lys. Et je dis, « Seigneur, c'est ma place ?» Il m'a dit, « Oui, mais pas maintenant. Viens. » Alors, il me prit avec lui à nouveau, et j'arrivais au bord d'un autre champ, bien plus grand que le précédent, et il n'y avait que quelques lys qui étaient sur le bord. Je dis, mais tout était préparé, comme un jardinier prépare toutes les lignes afin de mettre une fleur à chaque intersection. C'était cela que je voyais. Je dis, Seigneur, pourquoi n'y a-t-il point de lys dans ce champ? Et il me dit simplement, de cette voix douce et merveilleuse que j'aime. Il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de ma bergerie, mais il faut que je les amène. Vous avez bien entendu, il faut que je les amène, pas moi. Nous ne sommes que des serviteurs. C'est pourquoi, dit-il, va, retourne dans ton corps et va dire aux hommes que tout est prêt. Alors je dis, Seigneur, je suis si bien près de toi, laisse-moi ici. Il me dit, non, retourne dans ton corps et va dire aux hommes que je veux les sauver. Va. Je dis, non, Seigneur, laisse-moi près de toi. Seigneur, tu sais que j'ai tant travaillé déjà pour toi. J'ai tant parlé de toi et les hommes deviennent de plus en plus incrédules. Ils ne veulent pas croire à ta parole. Ils ne veulent pas croire que tu es celui qui les a aimés jusqu'à donner ta vie pour eux. Seigneur, laisse-moi ici. Il me dit, non, retourne dans ton corps, va dire aux hommes que je veux les sauver et que je veux aussi les guérir. Alors, saisissant encore ces paroles, je dis pour la troisième fois, Seigneur, laisse-moi ici.
Tu sais.
Alors, sur sa main parut un livre. Et il me dit, ce livre est la parole, et ma parole, c'est moi. Tu dois dire tout ce qui est écrit dans ce livre. Tu ne dois retirer aucune parole de grâce qui sont écrites dans ce livre, car tu enlèverais une partie de moi-même, et cela, tu ne le peux. Va dire aussi aux hommes que je veux les guérir de leur maladie, de leur infirmité. Ne retire aucune parole de guérison de ce livre, car tu retirerais une partie de ma puissance, et cela, tu ne le peux non plus. Va, retourne dans ton corps. Et encore une fois, je dis non, Seigneur, laisse-moi ici. Il me dit, viens. Et je partis avec lui un autre sentier. J'arrivais au bord d'un abîme, un abîme de ténèbres. On ne voyait que des nuages d'orage pendant la nuit. Et j'entendais des cris d'angoisse. J'entendais des voix d'hommes, des voix de femmes qui demandaient et qui criaient sans cesse, « Pardon, Seigneur, pardon, ne nous laisse point, nous voulons sortir, pardon, Seigneur. » Et de derrière moi, le Seigneur, la voix du Seigneur que j'aime tant, cette voix si douce vint au-dessus de moi comme un ouragan et elle criait, « Trop tard, trop tard, trop tard. » Et chaque fois que ces mots sortaient, c'était des cris de douleur, des cris d'angoisse. Et il me dit, avance plus près. Et j'entendais de nouveau des cris d'angoisse, ces cris de demande de pardon, et toujours la voix du Seigneur qui disait, trop tard, trop tard. J'étais vraiment suffoqué d'angoisse moi-même. J'étais là vraiment éperdu, tremblant de tous mes membres. Et tout à coup, il me dit, avance plus près. Alors, je regardais, et je n'ai point vu ce que les hommes racontent, certains hommes religieux racontent. Je n'ai point vu des démons cornus avec des queues, ni des fourches dans les mains, qui retournent les âmes des perdus, des païens, sur un gris dans un feu éternel. Non, ce n'est point cela. Cela, ce sont des inventions d'hommes. Mais la parole de Dieu me dit, et je le comprenais là-bas, que c'est le remords qui, comme un feu ronge, et un ver ronge, la remords continuellement pendant l'éternité. Alors, tout à coup, j'entendis des voix qui m'ont dit, « Oh, toi qui es là-bas, au bord de l'abîme, va vers ma famille, va vers mon père, va vers ma mère, va vers mes enfants. » Dis-leur qu'ils croient au Seigneur Jésus, qu'ils ne viennent pas dans cet endroit, car nous souffrons cruellement. J'entendais ces voix constamment, et constamment le mot « trop tard » était là. Alors le Seigneur me dit, « Et maintenant, iras-tu ?» J'ai dit, « Oui, Seigneur, j'irai. » Et à l'instant même, je suis revenu dans mon corps. Le médecin était là pour constater le décès. Et pendant qu'il écrivait sur le papier, sur l'acte de décès, il n'avait plus que sa signature à mettre, pardon. Et il dit à ma mère, je ne peux pas comprendre qu'il soit là maintenant, lui. J'ai vu tant de miracles dans cette maison. J'ai vu tant de choses manifester autour de moi que je ne peux pas comprendre que lui, il soit là maintenant. Et au moment où il allait signer, il me regardait encore avec tristesse. Et tout à coup, il vit que ma poitrine se soulevait. Il a jeté son porte-plume, est venu vers moi ou vers mon pyjama et commencé à masser ma poitrine, croyant donc me faire revivre. Mais je lui dis, ce n'est pas nécessaire, ça va. Eh bien, me dit-il, tu reviens de loin. Oh, s'il avait su d'où je revenais. Et on aurait pu lui dire, comme je le dis encore aujourd'hui, j'ai dit aux gens et je le dis à cette radio, je suis ressuscité d'entre les morts, je suis revenu du ciel de gloire, mais les hommes ne veulent pas croire. Et pourtant, je suis témoin, et d'autres sont témoins de cela. Aujourd'hui encore, je vous le répète, celui qui croira et qui croira que Jésus est vraiment le Sauveur sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera perdu pour l'éternité. C'est à vous de choisir maintenant. Croyez au nom du Fils de Dieu. Croyez à son amour. Venez à lui. Et vous, votre place, votre nom seront inscrits dans le livre de vie. Mais si vous ne croyez pas, pendant toute l'éternité, vous entendrez le mot « trop tard » et ce ne sera pas de ma faute, ce sera de la vôtre. Que Dieu vous bénisse.